Chapitre 30. La tombe blanche. Tous les cours furent suspendus et les examens repoussés à une date ultérieure. Dans les deux jours qui suivirent, des parents se dépêchèrent de retirer leurs enfants de Poudlard. Les sœurs Patil étaient parties avant le petit déjeuner au lendemain de la mort de Dumbledore. Et Zacharia Smith quitta le château escorté par son père, un sorcier à l'air hautain. Seamus Finnegan, en revanche, refusa tout net de retourner chez lui avec sa mère. Il y eut un échange de cris dans le hall d'entrée, et sa mère finit par accepter qu'il reste pour l'enterrement. « Elle eut du mal à trouver une chambre à Bréolard, » raconta Seamus à Harry et à Ron, car sorciers et sorcières affluaient dans le village pour venir rendre un dernier hommage à Dumbledore. Une certaine excitation se répandit parmi les élèves les plus jeunes, qui n'avait encore jamais vu ce spectacle lorsque, la veille de l'enterrement, un carrosse bleu pastel de la taille d'une maison, tiré par une douzaine de gigantesques chevaux ailés, tous des palominos, surgit dans le ciel à la fin de l'après-midi et atterrit à la lisière de la forêt. Harry regarda par la fenêtre et vit une femme immense, d'une très grande beauté, les cheveux noirs et le teint olivâtre, descendre le marchepied du carrosse et se jeter dans les bras de Hagrid qui l'attendait. Pendant ce temps, une délégation de membres du ministère, dont le ministre de la magie lui-même, était reçue au château. Harry s'appliqua à éviter tout contact avec eux. Il était certain que, tôt ou tard, on lui demanderait à nouveau de révéler où était allé Dumbledore la dernière fois qu'il était parti de Poudlard. Harry, Ron, Hermione et Ginny ne se quittaient pas. Le ciel magnifique semblait se moquer d'eux. Harry imaginait les bons moments qu'ils auraient pu partager si Dumbledore n'était pas mort, s'ils avaient eu toutes ces journées à passer ensemble en cette fin d'année. Les examens de Ginny terminés, la pression des devoirs disparue. Et, heure par heure, il repoussait le moment où il dirait ce qu'il savait qu'il devait dire, où il ferait ce qu'il savait qu'il devait faire, car il lui était trop difficile de renoncer à sa plus grande source de réconfort. Il se rendait à l'infirmerie deux fois par jour. Neville en était sorti, mais Bill continuait de recevoir les soins de Madame Pomfresh. Ses cicatrices étaient toujours aussi terribles. Il présentait maintenant une ressemblance frappante avec Maugrey Folleuil, bien que, par bonheur, il eût encore deux bras et deux jambes. Mais sa personnalité ne semblait pas avoir subi de changement. La seule différence, c'était qu'il avait à présent un goût prononcé pour les steaks très saignants.
« Oh là là, c'est une chance qu'il se marie avec moi !»
assura Fleur d'un ton joyeux en retapant les oreillers de Bill.
« Parce que les British font trop cuire leur viande, je l'ai toujours dit. »
« Faudra bien que j'accepte l'idée qu'il va vraiment l'épouser, » soupira Ginny un peu plus tard.
Harry, Ron, Hermione et elle étaient assis devant la fenêtre ouverte de la salle commune de Gryffondor et contemplaient le parc à la lumière du soleil couchant.
« Elle n'est pas si mauvaise, » dit Harry, « mais pas très jolie, »
ajouta-t-il précipitamment en voyant Ginny hausser les sourcils. À contre-cœur, elle laissa échapper un petit rire.
« J'imagine que si maman arrive à la supporter, j'y arriverai aussi.
D'autres gens qu'on connaît sont morts ? »
demanda Ron à Hermione qui lisait la Gazette du sorcier. La brutalité forcée de sa voix arracha une grimace à Hermione.
Non,
répondit-elle d'un ton réprobateur en repliant le journal.
Ils continuent de rechercher Rogue, mais ils n'ont aucune piste.
Bien sûr que non,
dit Harry, qui se mettait en colère chaque fois qu'ils abordaient le sujet.
Ils ne trouveront pas Rogue tant qu'ils n'auront pas trouvé Voldemort, et comme ils n'y sont jamais parvenus depuis tout ce temps.
« Je vais me coucher, »
annonça Ginny en bâillant.
« J'ai pas très bien dormi depuis, enfin, un peu de sommeil ne me fera pas de mal. »
Elle embrassa Harry, Ron prit soin de regarder ailleurs, adressa un signe de la main aux autres et se dirigea vers le dortoir des filles. Dès que la porte se fut refermée derrière elle, Hermione se pencha vers Harry avec une expression très hermionesque sur le visage.
« Harry, j'ai trouvé quelque chose ce matin à la bibliothèque. »«
Érabé ?» demanda-t-il en se redressant. Harry ne ressentait plus ce qu'il avait si souvent éprouvé auparavant,
l'excitation, la curiosité, le désir brûlant de percer un mystère. Il savait simplement que la tâche de découvrir la vérité sur le vrai Horcrux devait être accomplie avant qu'il puisse avancer un peu plus loin sur le chemin obscur et sinueux qui s'ouvrait devant lui, le chemin sur lequel il s'était engagé ensemble avec Dumbledore et dont il savait qu'il devrait désormais le parcourir seul. Sans doute y avait-il toujours quatre Horcrux cachés quelque part, et chacun devait être retrouvé puis détruit avant qu'il soit possible de tuer Voldemort. Il ne cessait de s'en réciter la liste, comme si, en les nommant, il pourrait les amener à sa portée. Le médaillon, la coupe, le serpent, un objet ayant appartenu à Gryffondor ou à Serdaigle, le médaillon, la coupe, le serpent, un objet ayant appartenu à Gryffondor ou à Serdaigle. Cette litanie lui tournait dans la tête lorsqu'il s'endormit le soir, et ses rêves furent peuplés de coupes, de médaillons et de mystérieux objets qu'il n'arrivait pas à atteindre. Dumbledore venait à son secours en lui apportant une échelle de corde, mais elle se transformait en serpent dès l'instant où Harry essayait d'y monter. Le lendemain de la mort de Dumbledore, il avait montré à Hermione le mot trouvé dans le médaillon. Les initiales ne lui rappelaient aucun nom d'obscur sorcier qu'elle aurait pu rencontrer au hasard de ses lectures. Mais, depuis, elle filait à la bibliothèque un peu plus souvent qu'il n'était nécessaire pour quelqu'un qui n'avait plus aucun devoir à faire. «
Non, » dit-elle avec tristesse. « J'ai essayé, Harry, mais je n'ai rien découvert. Il existe deux sorciers relativement connus qui portent ces initiales, Rosalinde Antigone Bunks et Rupert à la hache Brookstanton. Mais ils ne semblent pas du tout correspondre. À en juger par ce mot, la personne qui a volé leur crux connaissait Voldemort, et je n'ai pas pu découvrir la moindre preuve que Bunks ou à la hache ait jamais eu affaire à lui. Non, en fait, ce que j'ai trouvé concerne Rogue.
Elle eut l'air inquiète lorsqu'elle prononça à nouveau ce nom. «
De quoi s'agit-il ? » demanda Harry d'un ton accablé en s'affalant dans son fauteuil. « Bien, finalement, j'avais quand même raison à propos de cette histoire de prince de sang mêlé, »
dit-elle timidement.
« Faut vraiment que tu insistes, Hermione ? Tu ne crois pas que c'est déjà assez pénible pour moi ? » ?»« Non, non, Harry, ce n'est pas ce que je voulais dire. »
répondit-elle aussitôt en regardant autour d'elle pour s'assurer qu'on ne pouvait pas les entendre.
« J'avais simplement raison au sujet de cette Éline, prince, qui aurait pu posséder le livre. Figure-toi que c'était la mère de Rogue. »«
Je crois qu'elle n'était pas très belle, » fit remarquer Ron. Hermione ne lui accorda aucune attention.
En lisant d'autres anciens numéros de la Gazette, j'ai trouvé un minuscule faire-part annonçant le mariage d'Éline Prince à un homme du nom de Tobias Rogue. Plus tard, une autre annonce disait qu'elle avait donné naissance à un assassin,
lança sèchement Harry.
« Oui, » approuva Hermione. « Donc, j'avais raison d'une certaine manière. Rogue devait être fier d'être mêlé de Prince. Tu comprends ? Tobias Rogue était un moldu, d'après la Gazette.
Oui, oui, ça se tient, admit Harry. Il a mis en avant la branche sang pur de sa famille pour que Lucius Malfoy et les autres l'acceptent parmi eux. Il est exactement comme Voldemort. Une mère sang pur, un père moldu, honteux de ses origines, essayant de se faire craindre par la magie noire, se donnant un nouveau nom plus impressionnant. Lord Voldemort, le prince de sang mêlé.
Comment Dumbledore a-t-il pu ne pas voir ?
Il s'interrompit et regarda par la fenêtre. Il ne pouvait s'empêcher de repenser sans cesse à cette confiance inexcusable que Dumbledore accordait à Rogue. Mais, comme Hermione venait de le lui rappeler par inadvertance, lui-même s'était laissé abuser. En dépit du caractère de plus en plus odieux de ses sortilèges griffonnés dans les marges, il avait refusé de croire aux intentions mauvaises de ce garçon si brillant qu'il avait tant aidé. Aider. Cette pensée était presque insupportable à présent.
«
te comprends toujours pas pourquoi il ne t'a pas dénoncé pour t'être servi de ce livre, » dit Ron. « Il devait bien savoir d'où tu tenais tout ça. »
« Il le savait, » assura Harry avec amertume. « Il l'a su quand j'ai lancé le Sectum Sempra. Il n'avait même pas besoin de l'égilimancy. Peut-être même l'a-t-il su avant, quand Slughorn lui racontait à quel point j'étais brillant en cours de potion. » Il n'aurait pas dû laisser son ancien livre au fond de ce placard. Mais je le répète, pourquoi ne t'a-t-il pas dénoncé ?
Je pense qu'il ne voulait pas qu'on l'associe à ce livre, répondit Hermione. Je ne crois pas que Dumbledore aurait été très content s'il avait été au courant. Et même si Rogue avait prétendu que le Manuel n'était pas le sien, Slughorn aurait immédiatement reconnu son écriture. En plus, le livre se trouvait dans l'ancienne classe de Rogue. Et je suis sûr que Dumbledore savait que sa mère s'appelait Prince.
J'aurais dû l'apporter à Dumbledore, dit Harry. Pendant tout ce temps, il m'a montré le mal chez Voldemort, même quand il était à l'école, et moi j'avais la preuve que Rogue était comme lui.
Le mot mal est un peu trop fort,
répliqua Hermione à voix basse.
C'est toi qui n'as pas arrêté de me répéter que ce livre était dangereux. « J'essaie de te faire comprendre, Harry, que tu exagères ta responsabilité.
Je trouvais que le prince avait un sens de l'humour détestable, mais je n'aurais jamais pensé que c'était un tueur en puissance.
Aucun de nous n'aurait pu deviner que Rogue aurait enfin... Vous me comprenez, dit Ron. »
Ils se turent. Chacun plongé dans ses réflexions, mais Harry était convaincu que, tout comme lui, il pensait à ce qui se passerait le lendemain matin, lorsque la dépouille de Dumbledore serait porté en terre. Harry n'avait encore jamais assisté à un enterrement. Il n'y avait eu aucun corps à ensevelir lorsque Sirius était mort. Il ne savait à quoi s'attendre et s'inquiétait un peu de ce qu'il allait voir, de ce qu'il allait ressentir. Il se demanda si la mort de Dumbledore lui paraîtrait plus réelle une fois que les funérailles auraient eu lieu. À certains moments, le fait lui-même menaçait de le submerger d'horreur. Mais il y avait aussi des périodes d'hébétude, d'engourdissement, où il lui était très difficile de croire à la disparition de Dumbledore, même si personne ne parlait d'autre chose dans tout le château. Cette fois, cependant, contrairement à ce qui s'était passé pour Sirius, il n'avait pas désespérément cherché une faille, une possibilité que Dumbledore revienne parmi les vivants. Il tâtonna dans sa poche à la recherche de la chaîne du faux Horcrux qu'il emportait partout avec lui désormais, non comme un talisman, mais comme un rappel du prix qu'il avait fallu payer et de ce qu'il restait à faire. Le lendemain, Harry se leva de bonne heure pour préparer ses bagages. Le Poudlard Express partirait une heure après l'enterrement. Dans la grande salle, l'humeur était à la retenue. Tout le monde avait revêtu des robes de cérémonie et personne ne semblait avoir très faim. Le professeur McGonagall avait laissé vide le fauteuil en forme de trône au milieu de la table des enseignants. La chaise de Hagrid était également désertée. Harry songea qu'il n'avait peut-être pas eu le courage d'affronter le petit déjeuner. La place de Rogue, en revanche, était occupée sans cérémonie par Rufus Crimejour. Harry évita ses yeux jaunâtres qui balayaient la salle. Il eut l'impression désagréable que Scrimgeour le cherchait. Dans l'entourage du ministre, Harry repéra les cheveux roux et les lunettes à monture d'écailles de Percy Weasley. Ron ne donnait pas l'impression d'avoir remarqué la présence de Percy, mais il transperçait de sa fourchette des morceaux de hareng fumé avec une hargne inaccoutumée. À la table des Serpentards, Crabbe et Goyle se murmuraient des choses à l'oreille. Ils avaient beau être grands et massifs, ils paraissaient étrangement seuls, sans la haute silhouette pâle de Malfoy entre eux pour leur donner des ordres. Harry n'avait pas beaucoup pensé à lui. Son hostilité était entièrement concentrée sur Rogue, mais il n'avait pas oublié la peur dans la voix de Malfoy, au sommet de la tour, ni le geste qu'il avait eu en abaissant légèrement sa baguette avant l'arrivée des autres mange-morts. Harry ne croyait pas que Malfoy aurait tué Dumbledore.
Il le méprisait toujours pour son goût de la magie noire, mais désormais, une once de pitié nuançait son aversion. « Où était Malfoy à présent ?» se demanda Harry. « Et qu'est-ce que Voldemort l'obligeait à faire sous peine de le tuer et de tuer ses parents ?» Les pensées de Harry furent interrompues par le coup de coude que lui donna Ginny. Le professeur McGonagall s'était levé et la morne rumeur qui résonnait dans la salle s'évanouit aussitôt.
« L'heure est presque arrivée, » dit-elle. « Veuillez suivre, s'il vous plaît, vos directeurs de maison dans le parc. Les griffons d'or, regroupez-vous derrière moi. »
Dans un silence presque total, ils se levèrent de leur banc et sortirent en file indienne. Harry aperçut Slughorn à la tête des serpentards, vêtu d'une somptueuse robe vert émeraude brodée d'argent. Il n'avait jamais vu le professeur Chourave, directrice de Poufsouffle, aussi impeccable. Son chapeau ne comportait pas le moindre rapiéçage. À leur arrivée dans le hall d'entrée, Madame Pince était debout à côté de Ruzard. Elle s'était enveloppée d'un épais voile noir qui lui descendait jusqu'aux genoux. Il portait, pour sa part, un antique costume et une cravate également noire qui sentait la naphtaline. Lorsque Harry franchit la porte et s'avança sur les marches de pierre, il vit que tout le monde se dirigeait vers le lac. La chaleur du soleil lui caressa le visage, tandis qu'il suivait en silence le professeur McGonagall vers l'endroit où des centaines de chaises avaient été alignées. Elles étaient séparées par une allée, au bout de laquelle se dressait une table de marbre. C'était une magnifique journée d'été. Une assistance d'une extraordinaire diversité s'était déjà installée sur la moitié des chaises. Des tenues misérables côtoyaient les mises élégantes, les jeunes se mêlaient aux vieux. Harry n'avait jamais rencontré la plupart des personnes présentes, mais il reconnaissait certaines d'entre elles, notamment des membres de l'Ordre du Phénix. Kingsley Shacklebolt, Maugrey Folleuil, Tonk, ses cheveux ayant miraculeusement retrouvé une teinte rose vif, Rémus Lupin, dont elle tenait la main. Monsieur et Mrs. Wesley, Bill, soutenu par Fleur et suivi de Fred et de George qui portaient des vestes noires en peau de dragon. Il y avait aussi Madame Maxime, qui occupait deux chaises et demie à elle toute seule. Tom, le patron du chaudron baveur, Arabelle Lafigue, la voisine craquemolle de Harry, la bassiste chevelue du groupe des Bizarre Sisters, Ernie dans le mur, le chauffeur du Magicobus, Madame Guipure, la couturière du chemin de traverse, et d'autres que Harry connaissait seulement de vue, comme le barman de la tête de sanglier et la sorcière qui poussait le chariot de friandises du Poudlard Express. Les fantômes du château étaient également présents, à peine visibles dans la clarté du soleil. On ne les discernait que lorsqu'ils se déplaçaient dans l'atmosphère illuminée, tel un miroitement immatériel. Harry, Ron, Hermione et Ginny allèrent s'asseoir au bout d'une rangée près du lac. Autour d'eux, des chuchotements bruissaient comme des herbes sous la brise, mais le chant des oiseaux dominait les murmures. La foule continuait de grandir. Avec un élan d'affection, Harry vit Neville s'asseoir, aidé par Luna. Ils avaient été les deux seuls membres de la Dée à avoir répondu à l'appel d'Hermione la nuit où Dumbledore était mort. Harry savait pourquoi. C'était ceux qui regrettaient le plus la fin de la Dée. Sans doute les seuls qui regardaient régulièrement leurs fausses pièces de monnaie dans l'espoir qu'il y aurait une nouvelle réunion. Cornelius Fudge passa à côté d'eux, en direction des premiers rangs, la mine affligée, tortillant comme à l'ordinaire son chapeau melon vert entre ses mains. Harry reconnut ensuite Rita Skeeter et fut indigné de voir qu'elle serrait un bloc-notes dans sa main, aux ongles rouges, pointus comme des serres. Puis avec un sursaut de colère encore plus vif, il aperçut Dolores Ombrage, une expression de chagrin très peu convaincante sur son visage de crapaud, un nœud de velours noir sur ses cheveux aux boucles gris fer. À la vue du centaure Firenze, qui se tenait comme une sentinelle au bord de l'eau, elle eut un haut-le-corps et se hâta d'aller s'asseoir à bonne distance. Les professeurs prirent enfin place. Harry
observa Scrimgeour, grave et digne, assis au premier rang à côté du professeur McGonagall. Il se demanda si le ministre ou quiconque parmi tous ces personnages importants regrettait vraiment la mort de Dumbledore. Une musique étrange s'éleva alors comme venue d'un autre monde. Oubliant son aversion pour le ministère, il regarda autour de lui. Il n'était pas le seul. De nombreuses têtes se tournaient un peu inquiètes. « Là-bas !» murmura Ginny à l'oreille de Harry. Il les distingua dans l'eau claire et verte, étincelante de soleil, à quelques centimètres sous la surface, lui rappelant l'horrible souvenir des inféries. Un cœur d'être de l'eau chantait dans une langue insolite qu'il ne comprenait pas. Des vaguelettes ondulant sur leur visage blafard, leurs chevelures violacées flottant autour d'eux. Harry sentit un frisson sur sa nuque. Le chant n'était pas désagréable pour autant. De toute évidence, il évoquait le deuil et le désespoir. En regardant les visages farouches des chanteurs, il eut le sentiment qu'eux, au moins, regrettaient la mort de Dumbledore. Soudain, Ginny lui donna un nouveau coup de coude et il se retourna. Hagrid remontait lentement l'allée qui séparait les chaises. Il pleurait en silence, le visage luisant de larmes. Dans ses bras, enveloppé de velours pourpre parsemé d'étoiles d'or, il portait, Harry le savait, le corps de Dumbledore. À cette vision, il sentit monter dans sa gorge une terrible douleur. Pendant un moment, l'étrange musique et la proximité de la dépouille de Dumbledore donnèrent l'impression que l'atmosphère s'était vidée de toute chaleur. Ron était blême, bouleversé. Ginny et Hermione pleuraient, de grosses larmes tombant sur leurs genoux. Ils n'arrivaient pas à voir distinctement ce qui se passait devant eux. Hagrid semblait avoir déposé avec précaution le corps sur la table de marbre. Il repartait à présent le long de l'allée, se mouchant avec des bruits de trompette qui lui attiraient quelques regards scandalisés, dont celui, remarqua Harry, de Dolorès Ombrage. Harry savait cependant que Dumbledore ne s'en serait pas formalisé. Il essaya d'adresser un geste amical à Hagrid au moment où celui-ci passait à sa hauteur, mais ses yeux étaient si gonflés qu'on se demandait comment il parvenait à voir où il allait. Harry jeta un coup d'œil en direction du dernier rang vers lequel Hagrid continuait d'avancer et comprit alors ce qui le guidait. Habillé d'une veste et d'un pantalon, chacun de la taille d'un petit chapiteau, Groppe, le géant, était assis là, sa grosse tête repoussante, en forme de rocher incliné, docile, presque humaine. Hagrid prit place à côté de son demi-frère, et Groppe lui tapota la tête avec une telle force que les pieds de la chaise s'enfoncèrent dans le sol. Harry ressentit soudain une merveilleuse envie de rire. Mais le chant se tut, et il regarda à nouveau devant lui. Un petit homme, les cheveux en épi, vêtu d'une simple robe noire, s'était levé et se tenait à présent devant le corps de Dumbledore. Harry n'entendait pas ce qu'il disait. Des mots étranges leur parvenaient, flottant au-dessus des centaines de têtes rassemblées autour d'eux. Noblesse d'esprit, contribution intellectuelle, grandeur d'âme. Cela n'avait pas beaucoup de sens, et en tout cas, pas grand rapport avec Dumbledore tel que Harry l'avait connu. Il se souvint tout à coup de ce qu'avait dit un jour Dumbledore après avoir annoncé qu'il allait prononcer quelques mots. Nigo, gras double, bizarre, pinçon. Et une nouvelle fois, il dut réprimer un sourire. Que lui arrivait-il? Il y eut à sa gauche un léger bruit d'éclaboussure, et il vit les êtres de l'eau émerger à la surface du lac pour écouter eux aussi le discours. Il se rappelait Dumbledore, accroupi sur la rive 2 ans auparavant, tout près de l'endroit où Harry était à présent assis. et conversant en langue aquatique avec la sirène qui était le chef des êtres de l'eau. Harry se demanda où Dumbledore avait appris leur langue. Il y avait tant de choses qu'il ne lui avait jamais demandées, tant de choses qu'il aurait dû dire. Alors, brusquement, l'insupportable vérité le submergea. Plus absolue, plus indéniable encore. Dumbledore était mort. Il était parti, à jamais. Il serra à s'en faire mal le médaillon dans sa main, mais ne put empêcher des larmes brûlantes de couler sur ses joues. Il détourna la tête pour que Ginny et les autres ne le voient pas et fixa son regard sur le lac, en direction de la forêt. Tandis que le petit homme en noir poursuivait son discours d'une voix monotone. Il y eut un mouvement parmi les arbres. Les centaures étaient venus, eux aussi, rendre un dernier hommage à Dumbledore. Et ils ne s'avancèrent pas à découvert, mais Harry les apercevait, immobiles, à moitié cachés dans l'ombre, observant les sorciers, leurs arcs en bandoulière. Il se rappela le cauchemar de sa première incursion dans la forêt, sa première vision de la chose qu'était Voldemort à l'époque. Il se rappela comment il s'était retrouvé face à lui et ce que Dumbledore lui avait dit peu après sur les combats que l'on menait et qui semblaient perdus. Il était important, disait-il, de se battre encore et toujours, car c'était seulement ainsi qu'on pouvait tenir le mal à distance, sans jamais l'éradiquer complètement. Tandis qu'il était assis là sous le soleil brûlant, Harry voyait plus clairement que jamais comment ceux qu'il aimait s'étaient dressés devant lui, les uns après les autres, pour le défendre, sa mère, son père, son parrain, et enfin Dumbledore. Tout résolu à le protéger. Mais maintenant, c'était fini. Il ne pouvait laisser quiconque d'autre s'interposer entre lui et Voldemort. Il lui fallait abandonner à jamais l'illusion qu'il aurait dû perdre dès l'âge d'un an, qu'il ne pouvait rien lui arriver de mal tant qu'il se trouvait à l'abri dans les bras de ses parents. Il était impossible de s'éveiller de ce cauchemar. Aucun murmure ne viendrait le réconforter dans l'obscurité. Lui assurer qu'il ne craignait rien, que tout était un effet de son imagination. Le dernier et le plus grand de ses protecteurs était mort, et il était plus seul qu'il ne l'avait jamais été. Le petit homme en noir avait enfin cessé de parler et était retourné s'asseoir. Harry attendit que quelqu'un d'autre se lève. Il avait pensé qu'il y aurait d'autres discours, sans doute, du ministre lui-même, mais personne ne bougea. Des cris retentirent alors dans l'assistance. Des flammes blanches, éclatantes, avaient jailli autour du corps de Dumbledore. Elles s'élevèrent de plus en plus haut, masquant la dépouille. Une volute de fumée blanche tournoya en dessinant d'étranges formes. Harry sentit son cœur s'arrêter de battre quand il crut voir soudain un phénix s'envoler joyeusement dans le bleu du ciel. Mais un instant plus tard, le feu s'était éteint. À la place, une tombe de marbre blanc renfermait le corps de Dumbledore et la table sur laquelle il reposait. Il y eut d'autres cris lorsqu'une pluie de flèches apparut dans les airs, mais elles retombèrent bien loin de la foule. Harry le savait. C'était l'hommage des centaures. Il les vit faire volte-face et disparaître sous la fraîcheur des arbres. À leur tour, les êtres de l'eau s'enfoncèrent lentement dans l'eau verte et disparurent. Harry regarda Ginny, Ron et Hermione. Le visage de Ron était crispé comme s'il avait le soleil dans l'œil. Celui d'Hermione brillait de larmes, mais Ginny ne pleurait plus. Elle se tourna vers Harry avec ce même regard flamboyant qu'elle avait eu en le serrant dans ses bras après qu'ils eurent remporté la coupe de Quidditch en son absence. Il sut qu'en cet instant, il se comprenait parfaitement, que lorsqu'il lui annoncerait ce qu'il allait faire, elle ne répondrait pas « Sois prudent » ou « Ne le fais pas », mais accepterait sa décision parce qu'elle n'en attendait pas moins de lui.
Il rassembla donc son courage pour lui dire ce qu'il avait le devoir de lui dire depuis la mort de Dumbledore. « Ginny, écoute, » murmura-t-il alors que la rumeur des conversations enflait autour d'eux et que les gens commençaient à se lever. « Je ne peux plus rester avec toi. Nous devons cesser de nous voir. Nous ne pouvons pas continuer ensemble. » Avec un sourire étrangement tordu, elle répondit « J'imagine que c'est pour de stupides et nobles raisons. Ces dernières semaines avec toi, c'était comme si j'avais vécu la vie de quelqu'un d'autre, » dit Harry. « Mais je ne peux pas. Nous ne pouvons pas. Il y a des choses que je dois faire seule maintenant. » Elle ne pleura pas, se contenta de le regarder dans les yeux. Voldemort se sert des proches de ses ennemis. Il t'a déjà utilisé comme appât dans le passé parce que tu es la sœur de mon meilleur ami. Songe au danger encore plus grand que tu devrais affronter si nous continuons. Il l'apprendra. Il te trouvera. Il essaiera de m'atteindre à travers toi. Et si je m'en fiche ? Répliqua Ginny d'un ton féroce. Moi, je ne m'en fiche pas, poursuivit Harry. À ton avis, qu'est-ce que je ressentirais si c'était ton enterrement qui venait d'avoir lieu et que j'en sois responsable? Elle tourna la tête vers le lac. Je n'avais jamais vraiment renoncé à toi, reprit-elle. Pas vraiment. J'espérais toujours. Hermione m'a conseillé de vivre ma vie, peut-être de sortir avec d'autres garçons, de me détendre un peu en ta présence, parce que je n'arrivais plus à dire un mot. Quand tu étais dans la même pièce, tu te souviens? Elle pensait que tu me remarquerais peut-être davantage si j'étais un peu plus moi-même.
Une fille intelligente, cette Hermione, commenta Harry en s'efforçant de sourire.
Je regrette simplement de ne pas t'avoir demandé plus tôt de sortir avec moi. Nous aurions eu beaucoup plus de temps, des mois, des années peut-être.
Mais « tu étais trop occupé à sauver le monde des sorciers, »
dit Ginny en riant à moitié.
« Bah, je ne peux pas prétendre que je sois surprise. Je savais que ça finirait de cette façon. Je savais que tu ne serais jamais heureux si tu ne te lançais pas à la poursuite de Voldemort. C'est peut-être ce qui me plaît tant chez toi. »
Harry ne pouvait plus supporter d'entendre cela. Il ne pensait pas qu'il pourrait s'en tenir longtemps à sa décision s'il restait assis à côté d'elle. Il vit que Ron serrait à présent Hermione contre lui, et lui caressait les cheveux tandis qu'elle sanglotait sur son épaule. Lui-même pleurait, des larmes coulantes au bout de son long nez. Dans un geste d'une terrible tristesse, Harry se leva, tourna le dos à Ginny et à la tombe de Dumbledore, puis s'éloigna le long de la rive. Bouger lui était beaucoup moins pénible que de rester assis, immobile. De même, il aurait préféré partir le plus vite possible à la recherche des Horcruxes pour tuer ensuite Voldemort, plutôt que d'attendre encore davantage.
Harry !
Il se retourna. Rufus Scrimgeour, de sa démarche claudiquante, se hâtait vers lui, appuyé sur sa canne.
« J'espérais pouvoir vous dire un mot. Vous voulez bien que nous marchions un peu ensemble ?»«
Oui, » répondit Harry indifférent en reprenant son chemin.
Harry, c'est une terrible tragédie, déclara Scrimgeour à voix basse. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai été atterré en apprenant la nouvelle. Dumbledore était un très grand sorcier. Nous n'étions pas toujours d'accord, comme vous le savez, mais personne ne sait mieux que moi.
Qu'est-ce que vous voulez ? Demanda Harry à brûle-pourpoint.
Scrimgeour parut agacé, mais comme d'habitude, il se contrôla et s'efforça d'afficher une expression à la fois compréhensive et chagrinée.
« Vous êtes anéanti, je le comprends, » reprit-il. « Je sais que vous étiez très proche de Dumbledore. Je pense que vous deviez être son élève préféré. Le lien qui vous unissait tous les deux.
« Qu'est-ce que vous voulez ? » répéta Harry en s'arrêtant de marcher.
Scrimgeour s'immobilisa à son tour, s'appuya sur sa canne et fixa Harry d'un regard qui se voulait pénétrant, à présent.
D'après ce qu'on dit, vous étiez avec lui quand il a quitté l'école, la nuit où il est mort.
Qui dit cela ? Demanda Harry.
Quelqu'un a stupéfixé un manche mort au sommet de la tour, après la mort de Dumbledore. Il y avait également deux balais là-haut. Le ministère n'est pas stupide, Harry.
Content de l'apprendre, répliqua Harry. Eh bien, sachez que l'endroit où je suis allé avec Dumbledore et ce que j'y ai fait ne regarde que moi. Il ne voulait pas que cela se sache.
Une telle loyauté est certainement admirable,
assura Scrimgeour, qui semblait avoir du mal à réprimer son exaspération.
Mais Dumbledore est mort, Harry. Il a disparu.
Il ne disparaîtra vraiment de l'école que lorsque plus personne ne manifestera de loyauté envers lui, répondit Harry, en souriant involontairement.
Mon cher ami, même Dumbledore ne peut revenir de...
Je ne prétends pas le contraire. Vous ne comprendriez pas, mais je n'ai rien à vous dire. Scrimgeour hésita, puis poursuivit sur un ton qui se voulait délicat.
Le ministère peut vous offrir toutes sortes de protections, savez-vous, Harry. Je serais ravi de mettre deux de mes aurores à votre disposition.
Harry éclata de rire.
Voldemort veut me tuer de sa main, et ce ne sont pas vos aurores qui l'arrêteront. Alors merci pour votre proposition, mais ce n'est pas la peine.
Donc, reprit Scrimgeour d'un ton froid à présent, la demande que je vous ai faite à Noël.
Quelle demande ? Ah oui ! Quand j'étais censé dire à qui voulait l'entendre quel magnifique travail vous faites, ce qui aurait permis en échange
de remonter le moral de tout le monde, coupa Scrimgeour d'un ton sec.
Harry le considéra un moment. Vous avez relâché Stan Rockhard ?
Le teint de Scrimgeour prit une horrible couleur violette qui évoquait irrésistiblement l'oncle Vernon.
Je vois que vous êtes
l'homme de Dumbledore jusqu'au bout, acheva Harry. C'est vrai.
Scrimgeour lui lança un regard noir, puis tourna les talons et s'éloigna, en boitant, sans ajouter un mot. Harry voyait un peu plus loin Percy et le reste de la délégation ministérielle qui l'attendait en jetant des coups d'œil inquiets à Hagrid, secoué de sanglots, et à Grope, toujours assis à côté de lui.
Ron et Hermione accoururent vers Harry, croisant Scrimgeour qui y revenait en sens inverse. Harry poursuivit lentement son chemin, attendant qu'il le rattrape, ce qu'ils firent à l'ombre d'un hêtre sous lequel ils étaient venus s'asseoir en des temps plus heureux.
« Que voulait Scrimgeour ? »
murmura Hermione.
« La même chose qu'à Noël, » répondit Harry en haussant les épaules.
« Que je lui donne des informations confidentielles sur Dumbledore et que je fasse la publicité du ministère. »
Pendant un instant, Ron sembla lutter contre lui-même, puis il dit à Hermione d'une voix forte.
« Laisse-moi mettre mon poing dans la figure de Percy. »«
Non !» répliqua-t-elle fermement, en lui saisissant le bras.
« Je me sentirais mieux !» Harry éclata de rire. Hermione elle-même esquissa un sourire qui s'effaça lorsqu'elle regarda le château.
« Je ne peux pas supporter l'idée que nous ne reviendrons peut-être plus jamais ici, »
se désola-t-elle.
« Comment pourrait-on fermer Poudlard ?»«
Ça n'arrivera peut-être pas. Nous ne courons pas plus de danger ici que chez nous, » fit remarquer Ron.
« C'est partout pareil maintenant. Je dirais même que Poudlard est plus sûr. Il y a davantage de sorciers ici pour nous défendre. Qu'est-ce que t'en penses, Harry ?»
« Je ne reviendrai pas, même si l'école rouvre, » répondit-il.
Ron le regarda bouche bée, tandis qu'Hermione soupirait avec tristesse.
« Je savais que tu dirais ça. Mais que vas-tu faire ?»«
Je vais retourner chez les Dursley, parce que Dumbledore le voulait, » déclara Harry. « Mais je n'y resterai pas longtemps. Après, je partirai pour de bon. »«
Où iras-tu si tu ne reviens pas à l'école ?»
« Je pensais retourner à Godric's Hollow, » marmonna Harry.
Cette idée lui était venue depuis la nuit où Dumbledore était mort.
« Pour moi, tout a commencé là-bas. J'ai l'impression que je dois y revenir.
et j'aimerais bien me rendre sur la tombe de mes parents.
« Et ensuite ?»
demanda Ron. « Ensuite, il faut que je retrouve les autres Horcruxes, répondit Harry, les yeux fixés sur la tombe blanche de Dumbledore qui se reflétait dans l'eau de l'autre côté du lac. C'était ce qu'il voulait que je fasse. C'est pour cela qu'il m'a tout révélé. Si Dumbledore avait raison, ce qui est le cas, j'en suis sûr, il y en a encore quatre. Je dois les retrouver et les détruire. Après, je partirai en quête du septième morceau de l'âme de Voldemort, la partie qui est toujours dans son corps. Et je serai celui qui le tuera. Si en chemin je rencontre Severus Rogue, ajouta-t-il, tant mieux pour moi, tant pis pour lui. Il y eut un long silence. La foule s'était presque entièrement dispersée, les retardataires restant à bonne distance de Groupe, qui essayait de consoler Hagrid, dont les longues plaintes retentissaient toujours à la surface de l'eau. « On viendra te retrouver, Harry, » promit Ron. « Quoi ? C'est ton oncle et ta tante, et on t'accompagnera où que tu ailles. »« Non, » répliqua aussitôt Harry. Il ne s'était pas attendu à cela. Il avait voulu, au contraire, leur faire comprendre qu'il entreprendrait tout seul ce périlleux voyage.
« Tu nous as dit un jour, » rappela Hermione à voix basse, « qu'il était encore temps pour nous de revenir en arrière si nous le voulions. Ce temps, nous l'avons largement eu, non ?»«
Nous serons avec toi, quoi qu'il arrive, » assura Ron. « Mais avant toute autre chose, avant même d'aller à Godric's Hollow, tu devras d'abord revenir à la maison, c'est ma mère et mon père.
Pourquoi ?
Le mariage de Bill et de Fleur, tu te souviens ?
Harry le regarda surpris. L'idée que quelque chose d'aussi normal qu'un mariage puisse encore exister lui paraissait incroyable et merveilleux à la fois.
Oui, nous ne devons pas rater ça, dit-il enfin.
Ses doigts se refermèrent machinalement sur le faux Horcrux, mais, en dépit de tout, en dépit du chemin sombre et tortueux qui s'ouvrait devant lui, en dépit de sa confrontation finale avec Voldemort, qu'il savait inéluctable, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, il se sentit le cœur plus léger à la pensée qu'il pouvait encore profiter d'une dernière journée paisible et ensoleillée en compagnie de Ron et d'Hermione.